question à la ronde par rapport à ça. C'est moins évident dans le cas de Jean-Simon, mais ça l'est d'une autre façon. Dans vos trois livres, Rosalie, Véronique et Audrey, il y a cette idée que raconter, c'est déjà faire violence à bien des égards. Et je pense que c'est particulièrement criant dans le cas du narrateur du Sang du Cerf, qui est vraiment dans un projet déclaré d'effacement de la personne qu'il raconte. Donc, il ne raconte pas pour témoigner, il raconte pour détruire encore plus ce qui a été détruit physiquement. Donc, on en parlait dans le cas de Véronique aussi. Donc, là, il y a la mise en scène de Maëlle qui est comme tu le disais, donc, la violence ultime, c'est bien ce qu'elle raconte et ce qu'elle impose aux gens à qui elle raconte ces mensonges-là. Et bien sûr, donc, on revient dans le cas d'Audrey à toute cette idée-là de narration parfois volontaire, parfois forcée, mais qui est toujours... Dans l'acte, la violence se fait dans l'acte même de raconter. Et je me disais, perversion à part, pourquoi raconter si raconter, c'est toujours faire violence dans cette logique-là? Quelle grâce y a-t-il pour vous dans l'écriture, au deuxième degré, au-dessus de cette écriture qui toujours, ou de cette narration qui toujours détruit d'une certaine façon?
Pour aller un petit peu dans la même veine que Audrey, en fait, bon, dans mon cas, il y a une exploration des rapports de violence, de domination, ouais. Homme-femme, c'est très politique, en fait. La langue est très politique. Juste ouais. Parler, c'est déjà politique, tu sais. Et comment on parle révèle aussi beaucoup de choses, etc., etc. De la même manière qu'Audrey dit, je voulais que les lecteurs soient confrontés à des parties d'eux-mêmes. Mm-hmm. De la même manière, on m'a dit, j'ai fini par détester Anna. Mm. Donc, on finit par prendre position pour le vainqueur ou celui qui a le pouvoir. Ouais. Et c'était un peu le but aussi, rechercher, bon, c'est pas un truc à thème non plus, là, tu sais, mais disons que, oui, c'était un de mes objectifs. Et pour certaines personnes, effectivement, ça a marché. Bien des gens n'ont pas vu ce que moi, je vois en Anna. Ouais. Et moi, Anna, je veux dire, j'ai de l'amour pour elle, mais tu sais, bon, c'est mon rapport avec elle. Mais c'est ça, c'est qu'on prend quand même, on finit par prendre position et comprendre la posture du narrateur, c'est complètement fou.
Oui, mais le récit fonctionne comme ça.
Donc, le récit fonctionne, puis c'est aberrant. Alors, ça veut dire que aussi le lecteur doit se poser des questions. En fait, disons que la chose qu'on voudrait, je pense, en tant qu'écrivain, c'est qu'il y ait une réflexion quand on finit de lire un roman. Tu sais, qu'il y a une réflexion, qu'il y a un dialogue avec soi-même ou avec d'autres, etc., etc., pour ultimement que ça soit un partage, un vrai partage. Tu sais, puis justement, parce que c'est politique. Écrire aussi, c'est politique. Puis on doit se poser des questions sur comment on vit. Mmh. Et c'est ça qui est présenté dans ce roman-là, c'est comment on vit. Tu sais. Donc, voilà. Je réponds à votre question, oui. J'espère.
Merci Rosalie. Je serais curieux d'entendre ta réponse. Parce que toi, c'est clair qu'il y a une espèce de dualité, parce que bien sûr, elle raconte, on sent qu'il y a le désir de protéger quelque chose ou d'enregistrer quelque chose, justement.
Je pense qu'en fait, quand je regarde l'ensemble des 15 dernières années, ouais. Je pense que je me suis carrément fait prendre dans un engrenage, une prétention, une volonté de comprendre. Mmh. À la base, là, c'est à peu près que ça, parce que... Et puis, je m'aperçois que j'y arrive absolument pas. Mmh. Donc, pour moi, le fait d'écrire cette violence-là, c'est ma façon très égocentrique et narcissique d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de moi. Mmh. Et surtout, de me rendre compte que ça existe. Parce que j'ai bien essayé, là, au fil du temps, là, mais ça, je suis toujours ramenée à ce que à ce dont je suis témoin, qui est criant de violence toujours. À chaque fois, je me suis demandé si c'était pas juste autour de moi, finalement, cette violence-là. Mais non, elle est présente à peu près autour de tous les écrivains. Vous avez juste à regarder lui à ma gauche. Cela dit, c'est juste un acte de compréhension. Puis, paradoxalement, tant que j'y arriverai pas, je vais être heureuse comme écrivain. Et finalement, quand j'étais un plus petit écrivain, je me disais un jour, je réussirai à comprendre et là sera la fin de ma quête. Et j'avais hâte d'y arriver, mais plus aujourd'hui, plus du tout.
Mais dans moi, comment tu l'as vécu? C'est-à-dire, on a plus l'impression par rapport à ça d'un Bien, d'une aventure extrême, mais un peu aussi d'un constat d'échec. C'est-à-dire, il y a un moment où on a juste...
C'est un constat d'échec.
Celle qui était incompréhensible est disparue, en fait. Puis, oui. Puis elle n'est pas là. Puis ce qui est bien incompréhensible, je pense que ce qui a pu choquer dans la révélation elle-même, c'est pas tant le dispositif narratif comme tel qui fait que pendant un temps, ça nous était caché, ce qui était peut-être la seule façon de le représenter vécu de l'intérieur à bien des égards. Mais ce qui est choquant, c'est que cette violence-là qui est imposée comme réelle, une fois le tournant pris, est révélée comme une violence fantasmée. Et
en fait, c'est ça qui est le plus choquant. C'est même pas l'histoire elle-même, c'est le mensonge en tant que tel. Donc, c'est l'exercice mensonger. Puis, c'est tout à l'heure, Audrey parlait de courriels qu'elle pouvait recevoir ou de réactions. Moi, la réaction, c'est que les gens m'en voulaient de leur avoir menti. Alors, j'entendais même pas parler de la scène du chien décapité ou du viol collectif ou du... Non, ce que j'entendais, c'est « vous m'avez menti ». Et puis ça m'a complètement fascinée. Je m'interroge encore beaucoup là-dessus parce que j'ai l'impression que l'écrivain ment constamment, de toute manière, et que le lecteur avait compris ça. Mais je me suis aperçue que non, et que la violence, elle s'installait dans le mensonge. L'histoire était accessoire, finalement.
Merci. Avez-vous quelque chose?
Mais parce que tu demandais un peu ce qu'il y avait derrière.
Je veux pas de psychanalyse minute de vous-même, c'est pas ça le sens de ma question, mais plutôt, moi ça me frappait surtout pour, c'est pour ça que je dirigeais la question vers Véronique et Rosalie dans leur cas, mais il y a quand même cette idée-là, mais pour moi qui est beaucoup plus baroque dans les sens, c'est-à-dire là on n'est pas dans une personne raconte une autre, mais dans justement cette espèce d'indécision-là sur laquelle on a terminé de... beaucoup de personnes pourraient être l'artisan de ce texte-là de façon partagée ou unique, d'une certaine façon.
Oui, bien, ça, c'était pas le... L'idée, ça se rapproche à la limite encore de la structure du conte dans l'univers qui est créé, dans le fait que les personnages incarnent finalement une chose, ils sont pas complexes, c'est pas des personnages complexes comme les vôtres du tout. Là. On est vraiment dans... Voici l'incarnation de la jalousie. Voici l'incarnation de la colère.
Oui.
C'est comme assez... Mais l'idée, en gros, c'était de pousser plus loin une chose que j'avais mise en place dans Os, qui est une espèce
Et elles ont toutes une espèce de péché capital, en fait, sont faites du 7 pour 7.
Oui, mais pas conscient. Je ne sais pas conscient, non, volontaire, ce n'est pas calculé, mais elles sont des incarnations de... d'un sentiment ou d'un trait de caractère, mais dans l'idée de pousser plus loin une réflexion portée sur la non-victimisation que j'avais commencé dans Us.
Ouais.
Puis, j'ai l'impression d'être allée au bout de cette idée-là. C'est très compliqué d'écrire maintenant parce que j'ai...
Tu vas en trouver une autre, je t'assure.
Je ne suis pas inquiète, mais quand même. C'est ça. Donc,
Jean-Simon, toi qui es dans une écriture plutôt... particulièrement dans Demain sera sans rêve, dans une écriture objectivante, je dirais, c'est peut-être le plus loin que tu es allé là-dedans. Pour toi, c'est pour ça que je disais que la question se pose différemment, c'est-à-dire que tu n'es pas dans l'espèce d'économie de ces jeux multiples ou uniques qui essaient d'en détruire un autre, mais plutôt dans cette espèce de regard, dans cette espèce de focale qui peut être vue dans... à bien des égards, dans sa neutralité, comme étant brutale à bien des égards, justement, c'est-à-dire dans son absence de fioriture, qui va très, très loin là-dedans. C'est-à-dire, j'ai été surpris de voir à quel point tu t'interdisais de faire du style, littéralement, là-dedans. Il y a un moment presque elroyen, je dirais, dans « Demain sera sans rêve », dans cette objectivité-là. Et est-ce que dans les réactions, parce qu'on y viendra à l'idée des réactions, mais est-ce qu'elle a choqué par moment cette objectivité-là dans l'esprit des lecteurs, dans tes accueils?
Je crois que mes lecteurs ont déjà, à travers la canicule des pauvres, crois que l'effort d'objectivité à coût de 700 pages, ils ont une forme de formation éclair, ou plus ou moins éclair. Ce qui a surtout choqué avec Demain sera sans rêve, c'était la rupture de linéarité du temps narratif chez une certaine frange du lectorat. Et à la rigueur, le lectorat auquel je ne pense jamais, même si je pense à peu près à 3 personnes en termes de lectorat, règle générale, mais ça ne faisait pas partie des gens que je voulais soigner. Mais il y a une violence dans l'écriture, qu'on le veuille ou non. Même si le ton est objectif, même si la, comment je pourrais dire, la violence réelle du récit possible de Demain sera sans rêve, elle est distillée partout, elle a des surgissements à différents endroits, il y a des saillies qui se produisent où il y a une violence qui fait jour et qui apporte le récit ailleurs. Mais elle est traitée comme toute chose dans mes textes, elle est traitée avec une égalité totale. On me demandait à un moment donné si j'étais un écrivain communiste parce que tous mes personnages sont traités sur le même niveau dans Le sable et la solitude. Ouais. Je prends un étudiant, par exemple, même pas un drop-out qui se demande s'il est homosexuel en faisant des bangs dans un Tim Hortons, et je traite un ministre qui, justement, a des échanges de nature sadomasochiste avec sa secrétaire, et je les traite au même niveau. Mais je dis non, je suis pas communiste, à la rigueur, traitez-moi d'anarchiste, peut-être. Mais encore là, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça fait pas partie de mes soucis de base. C'est toujours d'aller vers une forme d'ontologie très simple qui est de faire, je ne parle même pas d'un témoignage, mais de faire sentir l'existence de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a un cumul de personnages qui sont des corps, d'abord et avant tout. Mais je reviendrai un peu avec la notion de violence et je vais le ramener sur mon terrain de recherche. Je vais citer une écrivaine que j'adore, qui est Annie Dillard, qui, elle, compare l'acte d'écrire un livre à celui de veiller un mourant. Et c'est un peu ce qu'on fait quand on écrit quelque chose, parce que plus on avance, plus on voit que les possibilités de s'en sortir diminuent. Et lorsque le texte est terminé, on est devant un cadavre. Oui. Lorsqu'on tient un livre, on est devant quelque chose de figé, une forme figée du texte qui, pour nous, l'auteur, on ne peut plus intervenir. Ça donne vie dans l'interprétation, dans ce que les gens vont en faire. Mais ça, cette violence-là, c'est celle-là que je recherche. Et peut-être que c'est pour ça qu'à certains moments, je cherche moi-même à me provoquer dans le texte. Et oui, il y a un jeu avec soi, c'est clair. C'est clair. Ce que tu as lu tantôt, un personnage qui, soit dit en passant dans le livre, a presque 80 ans, si je me souviens, et elle passe vraiment un sale quart d'heure, c'est une mort symbolique que je lui fais subir. Mais à travers, dans ma façon de fonctionner comme auteur, je m'impose de vivre exactement tout ce que mes personnages vivent. Ce qui fait que dans le confort approximatif de mon bureau, je peux mener toutes les vies. C'est un cliché énorme que j'énonce là. Mais par le pari de ma propre sensibilité et de mes propres, comment je pourrais dire, de mon propre agenda assez retard, je crois que je peux arriver à mener quelque chose et à prendre cet ami-là à l'agonie et de le faire souffrir assez longtemps pour qu'il donne tout ce qu'il a. C'est un acte de cruauté très grand, et la mort arrive juste au moment où on arrive à ce que Dillard appelle l'impossibilité intrinsèque d'un projet, c'est-à-dire là où si on en met trop, si on en fait trop, c'est plus la même personne qui meurt. Donc, on est dans un accompagnement constant. Et l'acte d'écriture, pour moi, est un acte d'une très grande violence. Une violence qui ne dépasse peut-être pas le stade d'un certain symbolisme, mais qui peut néanmoins être vécue comme telle de l'intérieur.
Deux questions en une. Je suis non pas dans l'effort d'empathie, mais j'essaie de me trouver des complices ou des gens qui ont vécu la même chose. Moi, je suis resté dans les mémoires, surtout au Québec, dans la mémoire de beaucoup de jeunes collégiens et jeunes collégiennes, comme le gars qui a écrit l'histoire des Japonaises qui s'automutilent. Ça vient avec un certain aura ténébreux, cette chose-là. Et donc, il y a cette idée, donc, d'une certaine façon, Véro en parlait un peu tout à l'heure, ce rapport aux gens qui nous lisent, ce rapport au regard autre, une fois qu'on est allé au bout de cette espèce de cruauté narrative, et ce rapport aussi sur lequel j'aimerais vous entendre, surtout Rosalie, parce qu'il y a un moment, il y a une autre nouvelle que j'ai écrite dans Vida que j'ai eu beaucoup de difficultés à écrire, qui était « Chaque maison double et duel », sur ce père qui achète une maison que sa femme croit hanter. Et finalement, c'est une histoire de divorce, bien plus qu'autre chose, mais c'est surtout une histoire de violence psychologique dans ce cas-là, sauf qu'on est le chien de l'histoire qui lui finit vraiment mal. Et je me rappelle, cette histoire-là, c'est une histoire que j'ai écrite au jeu, en congé de paternité, avec un chien qui me tombait sur les nerfs. Et là, il y a un moment, je me rappelle, ça a été j'avais très, très hâte de finir ce texte-là parce que je ne voulais plus être lui, littéralement. Là, j'étais vraiment pris dans une espèce d'affaire, ce que je ne fais pas tout le temps, mais dans une espèce de method writing à deux balles où j'étais beaucoup trop près de cette voix-là et de cette pensée-là. Et j'avais bien, bien hâte de m'en débarrasser. Et donc, je voulais savoir, dans ton cœur, Rosalie, comment s'était passée la cohabitation avec le monstre dans ce cas-là, parce que j'imagine que le travail a été de longue haleine. Et dans votre cas, à tous, donc, le rapport au regard lecteur, parfois, j'imagine, empathique, parfois courroucé aussi.
Dans mon cas, la cohabitation, c'est pas très bien passé, mais en fait, pas du tout. Ça a été très, très dur d'écrire ça, parce que même, parce que je prends la voix de cet homme-là, et je me suis posé beaucoup de questions, même au niveau éthique, si j'avais le droit, etc., etc., etc. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il écrit alors qu'il est à côté d'un cadavre, alors j'ai fait des recherches sur la décomposition pour savoir c'est quoi, comment ça marche.
T'sais. Oui, puis ton texte sent mauvais, c'est un compliment
cas-là. Oui, ça ne sent pas très bon. Oui, oui, non, mais à un point tel où, bon, là, je vais dans des anecdotes personnelles, mais à un point tel où j'ai développé une sorte de névrose là, pendant un certain moment où j'étais persuadée qu'on avait des punaises de lit. Bon, on n'en avait pas. Mais je me levais la nuit pour allumer la lumière, ouvrir les couvertes, parce que là, il y avait plein de récits des punaises. Là. On peut juste les voir la nuit, on ne les voit jamais. C'est comme quasiment des monstres. Ça devient monstrueux. Ouais. Bref, je levais la couverte pour être sûre qu'il n'y avait pas de punaises. Donc, bref, évidemment, c'était un déplacement d'angoisse. Là. Bon, on peut utiliser des termes psychanalytiques pour parler de ça. Mais donc, oui, non, ça ne s'est pas très bien... passé. Et par rapport au regard des lecteurs, c'est très difficile. Bon, je dirais que de mon côté, contrairement à toi, j'ai pas eu un grand lectorat. Tu sais, ça pas, il y a pas eu énormément d'échos par rapport au livre. Donc, j'ai pas à confronter beaucoup de lecteurs, si tu veux, ou beaucoup de regards différents. Mais on m'a beaucoup dit, mais comment tu peux écrire une chose pareille? Ça va-tu bien? T'es-tu correct? Bon, tu sais, etc., etc. J'aurais jamais imaginé ça de toi. T'as l'air tellement gentil. Bon. Puis toutes ces sortes de clichés-là. Mais là, après, bon, ça dépend le regard qu'on a et quel rapport, surtout, on a avec la littérature. Et les lecteurs qu'on voudrait avoir, il y en a très, très peu.
Oui.
Donc, c'est ça. Mais sans snobisme là, par rapport au lecteur, là, c'est bon. Mais c'est vrai qu'un lecteur qui va vraiment lire ton texte avec beaucoup, beaucoup d'ouverture et une lecture critique, si vous voulez, ben, tu sais, il y a les libraires, il y a les gens de la littérature. On connaît tous la rengaine. Je te laisse répondre.
Un peu comme les trois jeunes, moi, j'avais un rapport tripartite, finalement, avec... Tant que Maëlle était enfant, j'avais un rapport très, très confortable avec elle. Moi-même, je m'en allais vers ça, vers l'enfance, et puis j'étais bien. Même qu'à un moment donné, je parle d'un pyjama rouge rayé blanc, j'avais un pyjama rouge rayé blanc quand j'écrivais la voix enfant. À partir du moment où je suis tombée dans la voix adulte, là, j'ai pas été du tout confortable. Et j'étais pas non plus confortable avec Judith, parce que pendant que j'écrivais, je racontais l'histoire de Judith, puis tout le monde avait le même réflexe de me dire, ben voyons comment elle a fait pour croire à ça. Mmh. Et moi, j'en suis venue à développer une colère, finalement, contre Judith, mais contre la femme aussi qui m'avait raconté cette histoire. Je me disais, effectivement qu'elle est innocente, cet enfant-là, parce que ça n'a pas de bon sens à croire une histoire de même. Mmh. Et donc, ça a mal été parce que je ne me croyais plus moi-même. Puis en plus... toute une histoire de calendrier, il fallait que je le sorte en peu de temps, puis j'étais pas satisfaite esthétiquement du travail que je faisais. Et encore aujourd'hui, c'est le livre que je trouve le plus mal écrit dans tout ce que j'ai fait. Donc, la cohabitation était assez ardue. Mais aujourd'hui, on dirait que je cohabite mieux, puis je vais cohabiter encore mieux avec ce livre-là le jour où je vais avoir trouvé Maëlle, physiquement. Voilà.
Ben là, je ne sais pas si il faut que je te le souhaite en même temps. Parce que
J'en ai fait des cauchemars. Hein. On voit les... Mais là, c'est bien modeste ce que je vais dire. Là, mettons 3-4 personnes en ligne devant nous là, pour signer. Mais à tout bout de champ, j'hallucinais qu'elle était dans le fil. Tout le temps. Et encore aujourd'hui, des fois, c'est un peu comme les punaises. Là. Je vais lever les yeux, puis mon dernier livre, sa couverture est rouge. Et si je vois quelqu'un avec une couverture noire, j'ai un cœur qui me... Le cœur me fait... J'ai pas fini, finalement. J'ai pas réglé mes comptes.
Je peux poser une question? Oui? Ça m'intrigue vraiment beaucoup. En fait, excuse-moi, Samuel.
Je t'en prie.
Le, Mais ça m'intrigue beaucoup parce que tu dis qu'elle n'est pas aimable, mais tu as appelé ton livre Aime-moi.
Non, c'est ça.
C'est moi qui ai dit ça.
OK. Ouais. Moi, okay. Maëlle? Oui. OK. Oui,
okay. Je l'aime encore.
Mais tu penses que son mensonge, mythomanie, merci, est un cri d'amour? Pas un cri d'amour, un appel, je veux dire?
Non, c'est un cri de haine envers elle-même.
OK. Ouais. Donc, c'est toi, le titre, c'est toi, plutôt, c'est ça?
Non, en fait, je pense que... Ben, c'est-à-dire que je pense que aime-moi est la solution à tous ces mots à cet enfant-là.
OK.
Mais c'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre, mais c'est, je pense qu'elle, elle aurait de la difficulté à dire elle-même aime-moi. Mais c'est une fichue bonne question que je ne m'étais jamais fait poser.
Jean-Simon a fait la tournée des pervers pendant le prix littéraire des collégiens.
On
a vécu ça ensemble.
Très agréable tournée d'ailleurs. Où je me faisais demander dans certains cégeps de lire des chapitres très salaces du Sablier des Solitudes, entre autres une scène, la seule scène de sexe amoureux que je me suis permis d'écrire qui culminait par un simple doigt dans un anus. Mais donc, on me demandait toujours de lire ce chapitre-là. Je m'exécutais. Bon prince, j'imagine.
Bon prince. Non.
On ne souhaite pas gagner les prix. On accepte. On sourit. Non, ce qui est... Pour revenir un peu à ta question, qui était qu'est-ce qu'on a eu comme retour, je crois que ce qui me fascine toujours, c'est de quand les gens apprennent que je suis marié, que j'ai une fille de 7 ans, que je suis en couple, ça fait 12 ans. Que je suis d'une stabilité incroyable, que j'habite même pas la grande ville, et que je ne suis pas gay. Parce que la sexualité de mes personnages est tous azimuts. Il n'y a pas de barrière et il n'y a pas non plus de distinction, de détail ou de recherche de spécificité qui caractérise l'acte sexuel, homosexuel, masculin, féminin, et toutes les déclinaisons possibles des imaginaires sexuels qu'on peut avoir et des genres qu'on peut construire. Mais beaucoup d'hommes homosexuels sont venus me voir avec des yeux très très brillants, étant certain que ce soir ils avaient un coup avec moi. Et moi, je suis quelqu'un d'une nature très empathique et je le voyais et je le prenais. Bon, j'ai rendu quelqu'un heureux et rêveur et là je vais devoir décevoir morbidement cette personne. Je vais d'abord lui signer le livre. Mais ça crée des occurrences étranges où les gens croient, sont persuadés d'avoir eu un morceau de notre imaginaire qui correspond à notre intimité.
Oui.
Parce que peut-être qu'en effet, il y a de réels moments d'intimité dans nos morceaux d'imaginaire, mais ça demeure des artefacts. Mais dans l'immédiateté de la lecture et de l'interprétation qui en est faite, très souvent, les gens partent ça et ils en font une icône et la gardent avec eux. Et nous demandent souvent de correspondre à cette icône-là, qui est un jeu... parfois que je pourrais qualifier de malsain si on le prend au sérieux. Et moi, je le garde au niveau de jeu. Et je pense que je m'en sors pour l'instant relativement bien.
Vite, la cohabitation avec le texte. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à écrire. Donc, c'était pas non plus... comme c'est pas ancré dans le réel, comme vos deux textes, c'est beaucoup plus facile. On reste dans le fantasme complètement, mais dans l'univers fantasmé, l'univers du conte, il est ancré dans rien, donc ça, c'est vraiment un jeu. Pour les réactions, en fait, ce qui m'a vraiment, vraiment pas aidé, c'est Denis Lévesque, qui, premier, quand A s'est sorti, m'a dit, j'ai été à son émission... c'était complètement absurde d'être à son émission, mais en tout cas... mais ma tante est mariée avec lui. C'était vraiment comme une affaire poche de même. Jamais fait de télé de ma vie. Première question qu'il me pose, oui, c'était pas pour les sens, c'était pour os, mais enfin, beau petit roman sadomasochiste, est-ce que c'est à ça que tu penses avant de te coucher?
Ouais, ben là, t'avais juste à pas y aller.
T'sais, même pas, puis je sais pas, en tout cas, bref... À partir de là, au Salon du livre, ça...
Ta tante devait être contente de l'interview.
Mais en fait, il y avait la question de, dans leur tête, c'était pour faire vendre des livres. Mais c'est parce que comme... Moi, je suis pas le public de l'évêque. Je suis pas habituée de m'adresser nécessairement à eux, étant du milieu universitaire et donc des réponses. Qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est n'importe quoi. Puis je veux dire, ça n'a pas rapport... C'est juste c'était tellement énorme comme question et absurde. J'ai juste fait comme... Ben, je pense à mon roman. Dans le fond, je pense à l'écriture. Donc, voilà, ça a été l'instinct qui...
Mais je pense qu'il y a une volonté aussi de la part du lecteur de créer un personnage d'écrivain, à mon avis, ou même du metteur en scène. Quand j'ai monté L'Orange mécanique dans le Journal de Montréal, c'était on a confié la mise en scène à un metteur en scène trash. Ben, je veux dire, s'il y a quelqu'un de pas trash dans la vie, c'est bien moi. Pas parce que je suis pleine de tatouages, que je suis trash, puis que je découpe des poules tous les soirs, tu sais.
Non.
Non. Mon père le fait, par exemple, c'est un chasseur, mais non, pas moi. Mais il y a une volonté de créer un personnage, puis des fois, on se laisse happer par ça. Tu viens d'en parler, et c'est la même chose pour toi. Alors que tu rentres à la maison, tu embrasses ta fille de 7 ans, tu soupes en famille, bon, tu sais...
Mais c'est sûr qu'il y avait un jeu, mettons, dans le cas de Us, c'était aussi un peu un jeu, pas, là, ça c'était tout à fait imprévu, mais c'est sûr que j'avais une photo de presse très douce, très, ouais. Le contraste ouais, était ouais. volontairement ouais, là, ouais. mais en même temps, c'est ça, jamais fait de télé de ma vie.
Le livre demeure un objet de commerce qu'on veut.
Ben, ouais, je pense que l'idée pour lui, c'était de vendre, mais... Après ça, au Salon du livre, suite à cette belle intervention, il y a un homme qui est arrivé qui m'a dit, qui s'installe devant moi. Le livre fait 70 pages, donc ça prend 30 secondes de le lire. S'installe, lit le livre au complet. Là, il y avait mon éditrice à côté qui était comme pliée en deux, puis on se regarde. En fait, débarque, où ta tante? Ma tante ne signe pas les livres avec moi. Et donc, finit le livre, le referme, le redépose sur la pile, me dit... C'est vrai que c'est un beau petit roman cochon, mais c'est parce que vous n'avez pas lu Os nécessairement. On est très loin du beau petit roman cochon. Là.
Mais je trouve ça super insultant. C'est très insultant.
Mais c'est très drôle.
En fait, parce que, mais, non, je ne trouve pas ça drôle, moi. Je trouve que c'est très condescendant, en fait, comme déterminologie de dire un beau petit roman, machin, tu sais. Ça vient bien réduire là, l'espace de parole que tu as essayé
mais,
de
mais
mettre.
Mais c'est tellement pas la personne à qui je m'adressais en
non,
écrivant.
Non, je comprends, mais même l'intervieweur à la télé a dit la même chose, un beau petit roman aussi.
Bien, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas, je sais pas.
Ouais. Mais il y a quelque chose dont on ne sort pas. C'est-à-dire là, c'est sûr qu'il y a une dualité liée au sexe aussi. Moi, la pire chose que je me suis carrément. Fait dire dans ma vie, c'est « je pensais que tu mesurais 6 pieds ». Je sais pas pourquoi. J'avais l'air d'un bûcheron dans sa tête, mais je veux dire, c'est pas tellement insultant, alors que cette espèce de piège-là, ouais. de l'image trash, ou de « elle a l'air sage, mais c'est une cochonne », tu sais, là, c'est un espèce de truc dont on a de la misère à se servir, qui a extrêmement pesé sur Nelly à la fin. On le sait, c'est un espèce de truc dont on sort pas. Donc oui, il y a cette espèce d'image de l'écrivain, mais bien sûr, celle qu'on impose à des écrivains femmes est extrêmement... retorse.
Réductrice aussi. Yeah. En fait, si on entend je veux dire, régulièrement les intervieweurs, ce que je vois en tout cas, hein, c'est très impressionniste, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, là. Mais quand c'est un écrivain homme, on pose vraiment des questions sur le livre, la construction, pourquoi, ce qu'il y a derrière, la démarche artistique. Chez, pour une femme, souvent, ça va être ben, « ton livre, c'est charmant, c'est agréable. » On vient réduire dans des espaces très... pardon? Non, en fait, ouais, c'est ça dépend des livres. Mais quand ça ne l'est pas, peut-être justement, on ne les invite pas à des émissions de radio.
Non, mais quand ça ne l'est pas, on cherche le témoignage ou on cherche le fait vécu à la limite.
C'est une forme de recherche de vérité que l'écrivain doit se. Toute la grande bête narcissique qu'il est doit absolument se révéler lui-même à travers son travail, peut-être, mais. C'est pas ça nécessairement. C'est pas un enjeu. Ça peut en être un, ça peut en être pour certaines personnes, mais ce n'est pas toujours un enjeu. Et je crois que... J'extrapole complètement, mais je crois que la grande vague d'autofiction qu'on a eue, qui a été généralement portée par des écrivaines, je crois que ça retombe encore aujourd'hui et que forcément, une femme qui écrit doit aller dans cet angle-là, sinon c'est pratiquement louche. C'est profondément réducteur. Et oui, il y a vraiment un paternalisme... affreux. Je crois, pour ma part, qu'il y a une...
Exactement le bon terme.
Mais je crois qu'il y a une incompétence crasse aussi au niveau de la couverture de la littérature, règle générale. Les vraies questions arrivent très rarement. Et il suffit d'écouter une émission de France Culture, parfois, pour se rendre compte à quel point notre diffuseur, notre radio nationale, qui est en crise d'identité perpétuelle, des fois, on se demande où sont les vraies questions, on se demande où sont les enjeux, on se demande à qui s'adressent aussi ces émissions, à qui s'adresse cette vision-là de la culture. Je crois qu'on perpétue une certaine médiocrité ambiante et on tente de s'y conforter, on tente de s'asseoir sur certaines vérités, sur certaines icônes qu'on caresse. Mais ce n'est pas ça la littérature.
Enfin. C'est
Je vais me faire violence et vous couper la parole. Donc, on va passer à la partie la plus conviviale de la soirée pour suivre cette discussion-là entre nous. Je vous remercie tous les quatre infiniment d'avoir été là. De même qu'à vous tous qui êtes ici, d'avoir participé, d'avoir donné des communications dans le cas des participants. Donc, merci infiniment. C'était une très, très chouette journée. Je suis très, très content de la tournure que ça a pris. Donc, un gros merci à tout le monde.